Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, avec nous, Cédric Bohun. Cédric, bonjour.
Bonjour.
Bohun, on dit.
Bohun, c'est
Bohun.
Ça.
Voilà. Alors Cédric Bohun, donc vous êtes déjà venu à cette antenne, en tout cas on vous a entendu déjà à cette antenne quand vous nous avez parlé de la montée des mers. Et aujourd'hui, vous représentez encore davantage l'institution à laquelle vous appartenez, puisque le Conservatoire du Littoral, cette structure fête ses 50 ans. Et c'est beaucoup, 50 ans.
C'est beaucoup. Enfin, j'espère que ce n'est pas trop non plus. C'est mon âge. Donc, c'est un bel âge, on va dire.
C'est un bel âge. Alors, vous allez pouvoir nous rappeler ce qu'est le Conservatoire en général, son action surtout, son bilan, bien sûr. Et ne nous parlez pas seulement en termes d'hectares ou de chiffres, mais de tous ces territoires qu'il a fallu sauver d'une bataille patrimoniale qui s'est faite autour des hommes, qui s'est faite autour de la nature, etc. Et puisque le conservatoire existe nulle part qu'en France, il n'est nulle part ailleurs. Quelle est notre spécificité ? Quelle est notre French touch ?
La French touch, je ne sais pas, mais en tout cas, la spécificité, c'est qu'effectivement, on existe depuis 50 ans. En 1975, ça a été créé. Et ça, c'est assez atypique. Et surtout, les missions du conservatoire et la manière dont est organisée la mise en œuvre de ces missions étaient assez atypiques. Alors, les missions, bien sûr, c'est la préservation des littoraux. Donc, on est en même temps que les grandes missions d'aménagement du territoire sur les littoraux. Donc, la mission Racine en Roussillon, la MIACA en Aquitaine. Et en même temps aussi que les premières lois de protection de la nature, la loi littorale qui est arrivée aussi juste après. Et donc, en fait, c'est tous ces textes et ces démarches de mise en œuvre de politiques publiques qui visent à la fois à aménager, à faire du développement économique sur le littoral, qui devenait de plus en plus attractif, et ça ne s'est pas démenti depuis, et à essayer d'équilibrer ça avec aussi des objectifs de protection de la nature. Donc on a été créé dans ce cadre-là, et ça c'est assez, effectivement, assez atypique, donc on a toute cette antériorité de 50 ans.
Alors c'est atypique, pourquoi ? Parce que quand même on ne peut pas dire que les autres pays ne s'intéressent pas à leurs littoraux.
Non, mais de créer un établissement spécifique sur cette mission, et avec comme premier levier le fait d'acheter du foncier, d'acquérir du foncier, ça c'est vraiment atypique. Et un autre élément atypique, c'est qu'on, dès 1975, alors maintenant on va dire que c'est plus dans les us de l'État, c'est de travailler avec les collectivités. C'est-à-dire que nous, on achète le foncier et ensuite, ce sont des collectivités ou des associations qui gèrent nos terrains. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas comme un parc national ou une réserve où quand on crée ou on achète du foncier, il y a une réglementation qui va avec. En fait, on crée, on définit les objectifs et on crée les règles avec l'ensemble des acteurs locaux, donc les élus, bien sûr, c'est les collectivités surtout qui gèrent nos terrains, mais aussi avec les usagers. Donc on se réunit tous, on écrit un plan de gestion et on définit les règles applicables sur nos sites.
Et alors, vous êtes bien vu par les usagers quand vous faites ça, ou vous êtes un peu considéré comme des emmerdeurs voilà.
Ça dépend de quels usagers, parce qu'il y a beaucoup d'usagers, ils sont très variés sur nos sites. Donc des fois, évidemment, quand on achète du foncier, on pousse pour préserver les patrimoines, justement, c'est notre mission première, et l'accueil du public, c'est nos deux missions principales, la préservation des patrimoines et l'accueil du public. On pousse certains objectifs. Donc effectivement, des fois, on est amené à contraindre certaines activités, mais on peut en favoriser d'autres aussi, comme l'agriculture, par exemple, ou d'autres types d'activités, dès lors qu'elles sont compatibles avec ces objectifs de préservation. Donc, on ne met pas sous cloche nos territoires, pas du tout.
Mais alors, justement, comment ça se passe ? Alors, on va imaginer, allez, on arrive dans un lieu et vous voulez en faire l'acquisition. Alors d'abord, est-ce que vous avez un objectif précis qui fait que vous voulez acquérir ce lieu ?
Oui, on a une stratégie qui est très claire, qui est définie à 2050 d'intervention. C'est-à-dire qu'on a identifié les zones sur lesquelles on devait intervenir prioritairement et d'autres sur lesquelles on va intervenir moins prioritairement. Et on achète du foncier dans ces zones par rapport aux enjeux qu'on a identifiés. Donc les enjeux, c'est ce qui est présent en termes de patrimoine sur ces sites. Donc bien sûr, la biodiversité, la faune, la flore. Mais ça peut être aussi du patrimoine bâti, ça peut être du patrimoine culturel, des bâtiments aussi, des monuments historiques, etc. Donc on identifie
les enjeux. Alors par exemple, on a en Normandie, enfin près de l'île de Bréa, moi j'ai vu, il y a des anciennes, des anciens couvents ou des cathédrales, enfin pas des cathédrales, mais des restes, abbayes, des abbayes, voilà.
Oui, alors on a souvent ce type de bâti sur nos terrains. Donc, en général, c'est classé au monument historique. Et des fois, les services des monuments historiques nous affectent ces biens pour qu'on puisse, avec les territoires, via un projet de territoire partagé avec les acteurs locaux, définir un projet de réhabilitation.
C'est des biens qui sont un peu menacés, quoi.
Oui, qui sont menacés.
Ils n'ont plus les moyens de s'en occuper.
Et on est, nous, souvent porteurs de ces projets un peu multipartenariats. On va chercher des financements, parce qu'on a beaucoup de conventions avec des partenaires, pour réhabiliter, valoriser ces bâtiments et y accueillir le public le plus souvent, c'est l'objectif.
Alors, justement, moi, j'ai un peu regarder je connaissais plus avant d'arriver à Montpellier la Normandie et la Bretagne, l'action du conservatoire sur ces zones. Et en fait, souvent, il y avait des activités humaines qui étaient en même temps sauvegardées, c'est-à-dire que, par exemple, à Guérande, on protège un lieu, mais on protège en même temps les gens qui font du sel. Quand on est justement en Bretagne, on protège une abbaye et on protège en même temps les moines qui font, par exemple, du fromage ou de la liqueur. Alors, comment ça se passe? Vous les identifiez comment? Et est-ce que vous privilégiez justement cette...
Oui, on a vraiment pour objectif de maintenir les usages, de les soutenir, voire de les développer, dès lors que c'est compatible avec nos missions de préservation. Et souvent, ces usages qu'on appelle traditionnels, en fait, ils participent à l'intérêt du site, à savoir patrimonial, historique.
C'est-à-dire que les gens l'ont travaillé.
Voilà, économique, et ça crée souvent de la diversité. Donc, on cite souvent l'agriculture comme un moyen même de gestion pour nous, de nos sites, qui permet de maintenir les milieux ouverts, etc. Ça ne veut pas dire qu'on soutient ces usages sur l'ensemble des sites qu'on possède, parce qu'il y a des zones qu'on met plutôt justement un peu plus sous cloche, mais ce n'est pas l'ensemble des sites. On prend des fois un peu la libre évolution pour éviter d'avoir des moyens de gestion sur certains secteurs quand ça nous paraît nécessaire. Mais vraiment, dès qu'on peut, on essaie de favoriser ces usages. Et donc, sur la région, on a pas mal d'agriculture. C'est souvent l'élevage extensif à 90% pour l'agriculture. On a aussi de la pêche, et on a aussi de la chasse.
Oui, alors justement, j'allais vous poser la question. Quand on arrive sur le Languedoc-Roussillon, puisque vous êtes responsable de ce rivage particulièrement, on a l'impression que ce littoral, il est plutôt dévolu au tourisme. Il n'est pas dévolu vraiment. Alors, qu'est-ce que vous cherchez?
On cherche à avoir un équilibre. Alors nous, on intervient sur les espaces naturels ou les espaces agricoles qui sont en déprise. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est plutôt les stations littorales aménagées. C'est pas trop ce ne sont pas nos secteurs d'intervention. On intervient par contre souvent au contact de ces stations balnéaires. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est garder un maximum de naturalité entre ces stations, littorales.
Pourquoi on dit naturalité et pas nature?
J'aurais pu dire des espaces de nature ou des habitats naturels. Peut-être que je dis ça justement parce que c'est de la naturalité avec de la présence humaine. On en a quasiment partout. Il y a peu d'espaces qui ne sont pas fréquentés ou gérés par l'homme aujourd'hui.
Et alors sur cette bande littorale qu'on connaît bien ici, justement, est-ce que vous avez eu aussi des contacts avec les pêcheurs, par exemple?
Oui, on a des contacts avec les pêcheurs. On est propriétaire d'étangs qui appartenaient auparavant à des privés ou aux salins du Midi. Donc on a des contacts avec des pêcheurs et des conventions sur certains secteurs pour promouvoir une pêche durable sur ces étangs.
Et comment vous faites alors?
Alors c'est à la fois c'est toujours dans nos comités de gestion, là où on réunit tous les acteurs, parce qu'il y a, si on s'intéresse à un étang, il y a à la fois les pêcheurs, mais sur les enjeux de biodiversité. Tout ça, c'est lié à la gestion hydraulique, les questions de niveau d'eau, de salinité, etc. Donc, voilà, ces questions de pêche, elles sont liées à beaucoup d'autres enjeux. Donc, on se réunit autour de la table.
Donc, l'état de l'eau de l'étang, quoi.
Voilà, on fait effectivement, on a un suivi assez précis et on définit des objectifs de gestion. Et comme je vous l'ai dit, on n'a pas de réglementation qui s'impose, et donc il faut qu'on se mette d'accord. Donc on est souvent sur des compromis pour arriver à concilier un petit peu.
Ah oui, parce que vous n'avez pas de loi ou des lois qui peuvent se contredire votre service.
Les lois se contredisent parfois, ça arrive souvent. Donc l'idée, c'est qu'on arrive à traduire justement ces différentes politiques publiques de préservation de la zone humide, de soutien aux activités traditionnelles, à la pêche, etc., par des mesures et des objectifs de gestion avec. En essayant d'avoir un maximum de vision à long terme et pour définir des plans d'action qui soient concrets.
Alors justement, dans ce suivi du travail que vous avez mené sur des étangs, est-ce qu'on peut citer des lieux que vous avez déjà protégés, par exemple?
On est propriétaire de l'étang de Vic, par exemple, voilà, où il y a une activité de pêche, avec ce secteur qui est co-géré par l'aglo de Sète. L'agglo de la métropole de Montpellier et le conservatoire d'espaces naturels. Et voilà, donc là, il y a un suivi très précis qui est fait. Et puis, il y a de la surveillance, de la police qui est faite aussi pour lutter contre le braconnage sur ces espèces-là, ces espaces-là, pour favoriser l'activité de pêche qui est organisée par les prud'homies. C'est un des secteurs en jeu. Il y a des étangs de canets aussi dans les Pyrénées-Orientales, où il y a un sujet important sur le crabe bleu, là, espèce invasive. Donc voilà, il y a plein de dispositifs qui sont
mis en
œuvre.
Alors qu'est-ce que vous faites là, justement, pour lutter contre ces espèces invasives?
Nous, on a un plan de gestion qui est plutôt lié aux questions de niveau d'eau, de la gestion des milieux naturels, des habitats. Puis après, il y a aussi la région avec d'autres partenaires, comme l'Observatoire de Banyuls, qui font des suivis scientifiques et qui soutiennent les pêcheurs. Et les pêcheurs participent aussi aux programmes de recherche qui sont développés sur cet étang.
Alors, ici, on connaît bien sûr votre action sur le Grand Travers et sur les Arresquiers maintenant. Alors, on va un peu évoquer ça. Le Grand Travers, c'est gagné.
Alors, c'est gagné. En fait, il faut sans cesse s'adapter. Le projet du Grand Travers, c'est un projet de renaturation. Donc, on va dire qu'au niveau
de l'accueil du public... Enfin, il faut rappeler quand même que la mer bouffait la dune et même la route.
C'est ça, il y avait une érosion très importante. Entre l'Ido de l'Or, le Grand Travers, la Petite Traverse, c'est entre Mauguio-Carnon et la Grande Motte. Une érosion assez importante. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de reculer la route littorale pour la préserver de l'érosion qui était en cours. Et puis, il y avait un objectif aussi de mieux accueillir le public et de renaturer ce secteur. Donc, sur le Petit Travers, ça a été fait. Les résultats sont très positifs. Mais l'érosion continue. Donc, il y a des digues qui ont été construites l'année dernière pour protéger l'accès à Carnon. On a pour objectif...
Et ça va vite. On s'aperçoit, enfin, quand on va sur les lieux d'une année sur l'autre, on s'aperçoit quand même que la mer continue son action.
Effectivement.
Donc, vous allez peut-être être obligé de réintervenir.
Alors, on a déjà prévu de réintervenir, enfin, de revoir ce qui n'a pas forcément bien fonctionné dans le cas du premier projet sur le Petit Travers.
Et on a lancé qui a mal fonctionné.
Alors, il y a une surfréquentation qui est très importante. Donc, on parle souvent de la piste avec sa poussière, là. La circulation des voitures génère beaucoup de poussière. Il y a beaucoup d'aménagements qui avaient été faits, mais qui ne résistent pas aux tempêtes. Il y a parfois des conflits d'usage un peu sur la piste. Donc, il y a tout un tas de choses à corriger en tout cas, mais on va dire que c'est vraiment une réussite ce premier projet. Donc on va revoir un peu ce qui a été fait, et surtout on va poursuivre le projet de renaturation à l'échelle de l'ensemble de l'Ido de l'Orcer. On va intervenir sur le Grand Travers, voir comment on lie les deux parties Grand Travers, Petit Travers, et avoir une approche aussi côté étang. Voilà, on aura une approche un peu plus globale pour poursuivre ce projet de renaturation.
L'étang de l'Or qui est derrière, hein, vous allez peut-être joindre les deux.
Alors, peut-être pas les berges de l'étang de l'Or, mais en tout cas les rives du canal du Rhône à Sète. C'est un enjeu assez important de pouvoir mieux relier le site aux berges du canal, sur lesquelles il y a des projets aussi d'itinéraires cyclables. Donc ça permettrait un accès par vélo à ce secteur un peu plus facilement.
Et peut-être faire encore reculer la route?
Alors la route, non, elle a été reculée sur la partie entre l'accès à Mauguio et l'échangeur de la Grande Motte. Ensuite, la route se poursuit vers la Grande Motte, mais c'est un des accès, un des trois accès, ou deux, on va dire, à la Grande Motte, qui est prioritaire. Il y a des gens qui habitent là. Donc, pour l'instant, la perspective, c'est vraiment pas de supprimer cette route. Il y a des études, par contre, qui sont faites sur l'élévation du niveau de la mer à 30 ans et 100 ans. Là, c'est en cours dans pas mal de collectivités. Donc voilà, on prendra en compte ces éléments-là et voir comment est-ce qu'on projette les aménagements. Mais pour l'instant, il n'est pas du tout question de supprimer la route.
Alors là, il faut que vous persuadiez les maires de la Grande Motte et de Carnon, je suppose.
Oui, il y a un travail qui est fait avec eux. Alors, ce sont nos gestionnaires, l'agglo et les maires sont gestionnaires de nos sites. Donc, de toute façon, on définit des projets en accord avec eux.
D'accord, il faut qu'ils soient d'accord.
Oui, il faut qu'ils soient d'accord. Oui, surtout que c'est eux qui mettront en œuvre ensuite le projet d'aménagement et la gestion qui sera sur nos sites.
Donc. Alors, est-ce que vous leur imposez des contraintes de temps ?
Des contraintes de temps, non. Des fois, on pousse par rapport à notre prise, mais à nos objectifs, pour que ça aille plus vite. Mais des contraintes de temps, non. Après, la loi climat et résilience qui est assez récente, donc où ces cartes d'exposition au risque vont être définies. Là, il y a des horizons qui sont fixés, c'est-à-dire que les cartes doivent être dessinées à 30 ans et 100 ans.
Voilà. D'accord. Alors, vous avez un deuxième lieu. Alors ça, c'est un lieu finalement qui a déjà porté ses fruits et actuellement, vous êtes en train de travailler sur les arrisqués. Et là, vous avez quand même une mission qui est difficile parce qu'il s'agit peut-être de déloger des gens.
Alors, notre mission, nous, le foncier dont on dispose aujourd'hui, c'est vraiment sur le Lido et sur la partie naturelle du Lido. On a, il y a quelques années...
Donc c'est facile, ça.
Alors, c'est plus facile. Il y a quelques années, on a participé à la déconstruction d'une colonie de vacances sur le secteur. Et donc ça, c'était assez compliqué. Moi, je n'y étais pas, mais j'ai eu des retours et c'est assez compliqué. Il y avait aussi des paillotes de plage qui étaient sur le secteur. Ensuite, effectivement, bon, c'est un lido, comme le lido de l'Orme, il est beaucoup plus fin, donc il est mobile et il est assez exposé. Il y a beaucoup d'usages et de fréquentations sur ce lido, notamment en été, bien sûr, avec les plages, les gens qui débarquent en bateau, etc. Et puis, il y a une problématique d'érosion, c'est-à-dire que sur la partie de Frontignan, qui est très urbanisée, il y a une démarche qui est menée par l'agglo de cette agglopole méditerranée, là, qui est très intéressante. Et donc, effectivement, la mer monte
là,
et rentre. Et rentre, et il y aura des enjeux par rapport à la route qui est présente, notamment, là, qui relie Frontignan à Vic.
Alors, je suppose, par rapport à ça, que vous avez quand même des stratégies de conflit, quand même.
Alors, des stratégies du confinement, mais des stratégies d'anticipation, oui. En fait, on travaille beaucoup avec de la prospective. Et donc, on essaie de se projeter. Alors, on a différentes méthodes, des études scientifiques, bien sûr. On travaille avec l'EID, avec le BRGM, le CRMA, et des paysagistes aussi pour projeter faire des images, parce que c'est beaucoup plus parlant. Et par rapport à ça, on discute avec les décideurs. On dit, voilà, il faut surtout ne pas faire des choses qui sont vouées à l'échec, hein, puisque c'est de l'argent public, hein, qu'on ne veut pas dépenser pour rien. Et donc, essayer de trouver des solutions. Alors, parfois, il faut faire des solutions à court terme, qui sont rentables à court terme, même si on sait qu'à terme, ça ne marchera plus. Donc, il faut arriver à phaser un peu nos réponses pour éviter justement le conflit, le moment où ça arrive. Essayer d'anticiper les choses. Alors, on nous dit souvent au conservatoire, vous avez tort, vous avez eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Donc voilà, mais on pousse souvent à ça, et puis on essaie de planifier au mieux les réponses qui sont apportées.
Là, vous vous donnez combien de temps ?
Là, c'est difficile parce qu'en fait, le lido en lui-même, avec la montée de la mer, il a tendance à rouler sur lui-même et à reculer. Et donc, si on se projette en termes d'érosion à 30 ans, il y a un petit peu de recul, mais pas trop. Et en fait, à 100 ans, par contre, là, combiné à la montée du niveau de la mer, il va y avoir de très gros impacts. Et on voit que la route là, d'accès dans les projections est submergée. Il y a l'enjeu du canal du Renasset derrière aussi, etc. Donc,
Les habitants acceptent ce que vous leur dites là ?
Alors, c'est difficile. Il y a un travail vraiment de fond à mener avec les habitants, les acteurs socio-économiques, etc. Et donc, c'est un travail vraiment de longue haleine. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qui a été fait par l'agglo de Sète. Ils ont organisé des ateliers avec la population sur ces enjeux-là. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience qui est vraiment progressive, même si on voudrait que ça aille plus vite. Ça avance et en fait, ça marche un petit peu par palier. Donc, il y a la prise de conscience, l'acceptation un peu du risque. Et puis ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? Est-ce qu'on va être indemnisé ou pas ? Jusqu'à combien de temps on peut rester ? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur les
projets. Et alors là, vous leur répondez ou pas ?
Alors, on peut leur répondre sur des... des éléments de projection un peu scientifiques, parce qu'on veut dire que maintenant on arrive à mieux projeter les choses, donc il y a des choses dont on est certain.
Oui, mais et là, d'autres choses sont plus incertaines. Vous leur dites, en fait, vous allez être obligé de dégager.
Non, pas forcément. Il peut y avoir différents types de propositions. Alors, on est des fois dans l'adaptation. Est-ce qu'on peut se mettre à l'abri des risques? Est-ce qu'il y a des mesures de protection qui vont fonctionner un peu sur le moyen terme et qui sont rentables, ou alors sur le long terme? Donc, ou alors, est-ce qu'il faut relocaliser, effectivement? Donc, ça dépend vraiment des situations. Aujourd'hui, on a, même à l'échelle nationale, il y a des campings qui ont été relocalisés. Il y a la fameuse, l'immeuble Signal, là, qui était un emblème, voilà, où les gens ont dû partir. Mais localement, il y a des débats qui ont eu lieu, mais il n'y a pas eu de stratégie de relocalisation massives qui ont été travaillées et qui sont allées au bout. On a un exemple en Aquitaine avec Lacanau qui est allé un petit peu plus loin. Mais nous, on est encore dans la pré-concertation, on va dire, et le travail un peu amont.
Oui, donc pour l'instant, on voit l'action sur les campings, par exemple. On voit des morceaux de camping qui disparaissent, mais enfin, il n'y a encore pas eu de maisons fermées en dehors de la colonie de vacances dont vous parliez.
Alors, on a fait plusieurs colonies de vacances, beaucoup de cabanons aussi qui ont été construits dans des zones exposées au risque, des fois des parties agricoles, mais on n'est pas sur le cœur des stations balnéaires, c'est-à-dire où il y a une très grande densité, une très forte densité urbaine.
Mais vous agissez déjà sur, en tout cas, les petites buvettes.
C'est ça.
Enfin, ce que vous appelez la cabanisation.
Sur la cabanisation, voilà. Des habitats un peu diffus et isolés.
En fait, pour les gens,
ce n'est
pas de la cabanisation, c'est leur petit réseau de plages.
Alors, il y a l'histoire des paillotes que je mets à part. Notre intervention, nous, on n'intervient pas sur ces lots-là.
Ah, c'est pas vous qui intervenez sur les paillotes.
Non, nous, on est
en général... Parce que ça, c'est conflictuel, quand même.
Oui, c'est aussi conflictuel, mais en fait, c'est l'État qui gère ça en direct avec les collectivités.
Ah, d'accord.
Et nous, des fois, on gère des plages et des arrières-dunes, mais lorsqu'il n'y a plus d'activité dessus.
D'accord. Alors, donc revenons aux 50 ans, parce que c'est quand même ça qui nous réunit aujourd'hui. Et donc, vous avez le 17 mars, vous étiez, enfin en mars, vous avez sur les Arresqués fait une action qui était on marche sur des œufs.
C'est ça.
Alors, racontez-nous un petit peu de quoi il s'agissait.
Donc, cette opération on marche sur des œufs, c'est une opération annuelle. Et cette année, dans le cadre des 50 ans, donc on a fait le lancement, effectivement, Lido des Arresqués. Donc cette opération, on l'amène avec l'OFB et d'autres partenaires. Et c'est une opération d'information et de sensibilisation du public sur les enjeux liés à nidification sur les plages, à la fois des oiseaux et des tortues marines. C'est pour ça qu'on est allé aux Arresqués, d'ailleurs.
Ah, d'accord. Parce qu'il y a des tortues marines aux
Arresqués. Oui, c'est arrivé une fois, une ponte, là, il y a quelques années. Et puis on en a de plus en plus, parce qu'en fait, elles pondent de plus en plus sur la partie, le secteur nord de la Méditerranée, en fait, avec le réchauffement climatique, elles pondent de plus en plus au nord.
Alors, qu'est-ce que c'est comme tortue?
C'est tortue kawan, donc c'est les tortues de Méditerranée, ouais. Petite tortue brune. Et donc, tous les ans, on mène cette opération. Et l'idée, c'est d'alerter sur le fait qu'il y a ces nidifications et que c'est extrêmement fragile. Alors, il y avait trois classes là, qui vont participer à l'opération. Donc, ça a été un peu expliqué aux enfants. Ils ont travaillé en amont sur ces sujets-là avec les enseignantes. Et donc, c'était extrêmement intéressant de voir comment ils s'appropriaient ça, sachant qu'ils connaissaient très bien le site. Voilà. Et puis, le but était de démontrer aussi que les œufs, on ne les voit pas. Ils sont justement faits pour se camoufler au sein des cailloux ou des herbes qu'on peut avoir sur les dunes.
Et ça les passionne.
Voilà, donc ça les a passionnés. Oui, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et ils nous ont fait des propositions très concrètes. Ils nous ont écrit des propositions qu'on a partagées sur la préservation des œufs, le nettoyage des plages. Voilà, il y en a qui nous ont dit il faut que ma plage elle reste toujours comme elle est aujourd'hui. Voilà, avec des vœux aussi qu'ils ont exprimés qui étaient vraiment très intéressants.
Et c'était des enfants qui venaient de
l'école primaire de Villeneuve-les-Maglones, puisque l'île de Arresqués est sur la commune de Villeneuve-les-Maglones.
D'accord. Bien, alors, on est aujourd'hui à moitié à peu près. Il y a encore, bien sûr, d'autres actions.
Dans le cas des 50 ans, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, donc à la fois des événements nationaux. Donc notre anniversaire, la date officielle, c'est le 10 juillet. Donc, on se réunira avec nos partenaires à Rochefort, qui est notre siège. Et puis, localement, il y aura des balades qui sont prévues aussi. Donc, on en a fait une dans l'Aude et puis il y en aura une bientôt... au Lido de l'Or cet été, une au Gros du Roi. Donc, je vous invite à aller voir notre site internet où il y a le programme en fait de l'ensemble des événements qui va être organisé.
Donc, on mettra le lien vers votre site. Et puis, vous avez fait un article dans le... Enfin, j'ai vu que vous aviez eu une page dans Midi Libre sur, en fait, comment vous rêvez, vous, la suite de votre action.
Ben, les temps sont un petit peu difficiles sur les questions d'environnement en ce moment, mais on va dire qu'on a bien avancé. Et moi, je reste optimiste. On avance, certes, pas assez vite, mais on avance. Donc, mon rêve...
Vous n'avez pas quand même la volonté de prendre tout le littoral.
Non. Aujourd'hui, alors, on ne parle pas trop chiffres, mais aujourd'hui, on a 220 000 hectares de propriété au niveau national, 15 000 en Occitanie. Le but, c'est de doubler à horizon 2050. Donc, c'est très ambitieux parce qu'on a 50 ans et on veut doubler dans les 25 ans qui nous restent. Et puis le foncier est de plus en plus difficile à acheter, c'est des petites parcelles, etc. Bon. On a cet objectif qui est ambitieux, on veut le tenir. Mais pour ça, il faut que les enjeux soient davantage connus, partagés par tous, les enjeux sur le littoral. Qu'il y ait des moyens, bien sûr, mais c'est surtout lié à la gouvernance. C'est-à-dire qu'on arrive à faire en sorte que ces enjeux soient mis sur la table et qu'ils soient traités un peu prioritairement, on va dire, sachant qu'il y a de plus en plus de monde qui veut aller sur le littoral toujours,
mais
de plus
vous,
en plus d'activités.
En tant que responsable, quel est votre souhait principal ?
Le souhait principal, qu'est-ce par rapport voudriez... à ma mission ?
Oui, par rapport à votre mission, qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Indépendamment, bien sûr, de récupérer plus de terres, etc.
Mais... C'est un peu ça. À mon avis, si on arrive à faire en sorte que la conscience soit vraiment là, les choses vont découler de ça et tout va être facile. C'est-à-dire que le rôle... Et ça peut passer que par le fait que les gens soient conscients de ce qu'apporte la nature à l'homme, en fait. Et je pense que si les gens prennent conscience de ça... le fait de protéger cette nature, de faire en sorte que certes il y a des aménagements, il y a des secteurs où il y a du développement économique et il faut le faire et c'est nécessaire, de mettre un maximum de nature dans nos espaces et surtout sur nos littoraux où la pression est très forte, ça ira de soi et notre mission elle découlera de ça et elle en sera facilitée.
Merci Cédric Boune, on espère en tout cas qu'on aura encore plus de nature dans les années à venir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.